mais une nécessité de transmettre, et que, là je laisserai à ceux qui suivront dans les autres conférences, justement les enjeux de notre patrimoine, ce que à travers les enjeux du patrimoine qui est le nôtre, permettent, mais c'est les autres qui ouvriront ces portes-là. Je commence donc par cette question, cet incroyable besoin de croire. Nous avons, j'ai même essayé de vous faire un plan, c'est pas dire parce qu'habituellement, ça c'est pas, je suis plutôt à tendance à idées successives, donc j'ai essayé d'être, mais je reprends les deux questions. Qu'est-ce que ça veut dire? On va s'interroger, qu'est-ce que ça veut dire pour l'homme contemporain, croire? On va commencer par ça. C'est déjà, parce que c'est déjà un point où les choses sont, complexes aujourd'hui. Pour l'homme contemporain, la croyance, c'est l'opposé de la science. C'est tout. Ce qui est assez intéressant, c'est pour ça que je suis désolé, il est ressorti trop récemment. Et là, vous avez des scientifiques qui vous disent, peut-être que non. C'est pour ça que cet ouvrage est intéressant sur Dieu et la science. La croyance, en fait, c'est une faiblesse. Faiblesse dont, et ça c'est toute la philosophie des Lumières, dont on doit s'extraire. Voltaire aurait parlé de la superstition. On est dans un monde où l'on pense, on ne doit pas être dans un monde où l'on croit. Il est mal vu de croire, et on nous conseille plutôt que de croire, de savoir. C'est la croyance pour Platon, c'est ce qu'on nous fait faire en philosophie, la seule chose où finalement les gens se souviennent de leur philosophie terminale, c'est en gros la caverne. C'est s'extraire de nos croyances. Donc vous voyez que le mot, dès le départ, dans la manière dont on le reçoit, donc le mot croire, croyance, déjà on est de l'ordre d'une superstition, il faut s'en extraire. Le croyant, c'est un bigot. Voilà, si vous voulez, d'autre chose. D'autres mots, dans le monde où l'on vit, quand on dit qu'on a la personne qui aurait des croyances, il y a quelque chose dévalue dans une certaine mesure. Le bon intellectuel ne conjugue le verbe croire qu'au passé. J'ai cru. Celui qui veut montrer sa sagesse et son intelligence va j'ai cru, mais je dis surtout je n'y crois plus. En réalité, nous ne sommes lucides que sur nos aveuglements passés. Pour le présent, on a des opinions, on a un certain nombre de choses, mais pas des croyances. Vous voyez, c'est jouer comme ça, c'est ce que fait, je trouve, avec admirablement Régis Debray, parce qu'il le fait avec beaucoup d'ironie, comme j'essaye de le faire avec vous. Il y a quelque chose qui engage dès qu'on a la notion de froid. C'est bon pour nos grands-mères, quoi, mais ça va bien, la croyance, on en extrait. Et on est encore dans cette mentalité bien, bien héritée du 19e siècle, même des Lumières, du 18e. Voilà, il faut sortir cela. En gros, il n'y a que les primitifs, et les étrangers, qui ont des croyances. D'accord ? Vous comprenez ? Nous, modernes, on n'en a pas. En fait, on a un complexe, la société contemporaine a un complexe de supériorité, si vous voulez, je résume, un complexe de supériorité par rapport envers les croyances, de manière générale. Vous avez, pareil, un très très bel article qu'il avait sorti au moment de, on le rappelle, puisque le procès était là, et où il disait qu'il faut absolument faire des manifestations contre le fanatisme. Évidemment, dès qu'il y avait attentat, etc. Et Régis Debray, qui a quand même... je me demande comment... Le parcours de cet homme reste pour moi un étonnement, parce que quand même, quand il était guévariste, c'était pas la même chose. Donc il y a... Mais en développant... Non, je vous en prie, mais c'est un homme assez étonnant. Et lorsqu'il y a eu ces trucs-là, il dit, mais arrêtez de commencer par penser le fanatisme. Il y a une croyance, commencez par essayer de la comprendre, leur croyance, avant de... Ce qui est intelligent, plutôt que de faire tout de suite... Mais bon, ça c'est le problème, j'en reparle plus tard, du côté passionné. En fait, il y a un énorme nuancier, ça c'est important à avoir en tête, un énorme nuancier au terme de croyance. Et ça c'est intéressant pour nous. Je ne dis pas la même chose lorsque je dis je crois que, lorsque je dis je crois à, ou lorsque je dis je crois en. Changer juste un terme. Lorsque je dis je crois que, je suis dehors de la conjecture. Lorsque je dis je crois à, je suis dehors de la certitude. Et lorsque je dis je crois en, je suis dehors de la conviction. Vous voyez la nuance dans un même terme. Et ça, il faut l'avoir en tête. C'est, le latin médiéval était encore... Je pourrais vous l'écrire, ce sera plus facile. En bon prof, j'ai mes propres trucs. Oui. Que je ne fasse pas de faute. Je peux... Le verbe croire, crédere, tout simplement, attendez que je ne fasse pas d'erreur, le datif, croire à Dieu, que Dieu existe, croire, alors avec un accusatif, croire Dieu, hein, donc là, vraiment, je suis de l'ordre de l'objet. Voilà, croire Dieu est Dieu. Et puis je peux croire en Dieu. Vous voyez les trois nuances? Et dans ce « je crois en Dieu », ce n'est pas une petite phrase qu'on dit au moment dans la liturgie, le « je crois en Dieu », c'est une phrase d'une profession de foi, à l'image de Pierre à Césarée ou quoi que ce soit. Quand je dis « je crois en Dieu », je vais en reparler, il y a toute une notion d'appartenance, il y a tout quelque chose de bien plus large. Bref, dans le mot « croire », il n'y a pas seulement donc... C'est toujours intéressant d'étudier un mot... La philosophie, normalement, c'est un jeu de définition. Mais c'est intéressant d'étudier simplement le terme et que... parfois, il faut déconstruire cet a priori contemporain. Dans le terme « croire », il n'y a pas une superstition ou une bigoterie, mais au contraire, un attachement et une conviction. Et croyance, et d'ailleurs, pour le coup, Debré ne peut pas lâcher le mot croyance, il ne va pas dire la foi, qui n'est plus déjà du même ordre. Mais toi, tu as la foi, vous avez la foi. Il y a quelque chose qui retire en fait le côté péjoratif. Qui fait en fait qu'il y a une profonde, il y a un certain nombre de nuances qu'il faut réussir à apporter et à faire comprendre. Lorsque justement, et c'est le problème du rapport à la vérité, lorsque le chrétien va dire « je crois en Dieu », lorsqu'il donne cette affirmation-là, il y a bien plus qu'une conviction, il y a l'appartenance à un corps, il y a une relation qu'il va estimer personnelle, il y a voilà, tout ça derrière le mot « croire ». En fait, la croyance est vitale. C'est le dernier point là-dessus, sur cette question. La croyance, en fait, est vitale. Elle fait partie de la nature humaine. Parce qu'en fait, elle... Vous avez Descartes, dans sa deuxième règle pour la direction de l'esprit, il cherche absolument à évacuer les connaissances... Qui ne sont qu'empiriques, c'est-à-dire qui ne sont données que par la conjecture du corps. Le fameux « je pense, dont je suis », c'est justement en séparant la réalité de son corps par rapport à la réalité de son esprit ou de son intelligence, de sa raison, ce qui deviendra, voilà, et qu'il pense, c'est quelque chose, et donc il évacue toute notion de croyance ou de conjecture, puisque le propre de notre expérience corporelle, c'est qu'elle est... voilà, elle avance à tâtons. Et la séparation, alors dans la philosophie et la pensée, on en est encore très très héritier hein, depuis Descartes, la séparation justement de notre réalité corporelle avec notre intelligence, de faire un certain nombre de choses Donc voilà, c'est d'abord l'intelligence qui doit fonctionner avant toute chose. La séparation des deux fait que justement on évacue la croyance de l'ordre de ce que le corps peut saisir, alors que la certitude, elle ne vient que de l'ordre de la raison. Simplement, alors là, pour le coup, l'anthropologie chrétienne a toujours vu, même si à certains moments elle a pu les opposer, mais la personne comme un tout, comme un ensemble, corps et âme, et le Christ et le mystère de l'incarnation est exactement pour ça. Et que justement, c'est l'expérience plus conjecturelle, et encore, quel est le parmi nos sens, particulièrement le sens du toucher, celui de la certitude, celui qui nous donne même la certitude d'exister, c'est le sens du toucher. On peut s'imaginer, à la rigueur, sans l'odorat et sans le goût. Hein. Maintenant, on peut s'imaginer sans la vue et sans l'ouïe. Essayez de vous imaginer sans le sens du toucher, du tout. C'est impossible, philosophiquement. Le sens, et donc c'est une expérience de notre corps, c'est impossible de s'imaginer sans le sens du toucher, sinon on aurait l'impression de ne pas exister. C'est, l'un est lié avec l'autre. Donc l'expérience, ben oui, qui crée des croyances, l'expérience de notre corps, de notre corps nous renvoie nécessairement à ces croyances qui sont en fait importantes. Elles sont importantes et comme dit Debré, notre société leur doit quelque chose. La personne humaine de manière générale. D'abord, la croyance dessert, dit-il, l'étau du temps. Elle place... Un croyant, c'est quelqu'un qui est en attente. Donc, qui est capable de se dégager de la réalité vastement pragmatique de l'instant présent. C'est quelque chose d'extrêmement important, ce lien avec le temps. Et particulièrement, alors, dans le cadre du patrimoine, être capable d'aller regarder ce que certains ont fait par leur foi, pas pour eux-mêmes, pour que dans le temps, dans l'avenir, cela parle à d'autres et que ça continue de parler aujourd'hui. Il y a dans tout patrimoine, dans toute œuvre d'art, dans la chose du plus petit artisan, quelque chose qui doit dépasser le temps. Et qui place aussi par conséquent l'homme dans ce à quoi il est destiné. Donc la croyance, elle est de cet ordre-là. Elle dessert l'étau du ici et maintenant. Autre chose, c'est qu'un croyant n'est jamais seul. Un croyant se permet de... Les croyances, la foi, c'est pour ça que... Voilà, on proclame une même profession de foi. Le croyant n'est jamais seul. Il y a toujours un côté, il y a toujours une communauté derrière. Et aujourd'hui, c'est encore plus flagrant. Les réseaux sociaux ont démultiplié ça, réellement, ces impressions de communauté autour d'une même croyance. Nous pouvons dire ensemble ce credo in nomine Deo. Au passage, pour l'anecdote, savez-vous pourquoi Charlemagne a exigé à ce que le credo soit à cet emplacement qu'il est encore aujourd'hui dans la messe? C'était au cas où les prêtres, juste avant, aient dit un peu trop d'hérésie, qu'ils soient capables de proclamer profondément leur foi. C'est un problème de prédication. C'est au cas où le curé ait dit un peu trop de bêtises. En tout cas, après, s'il proclame la foi, c'est bon, on ne peut pas lui en vouloir pour son homélie. Sachez-le. C'est vrai, parce qu'il fallait, au cas où, on a qu'à mettre le credo là, comme ça, même si leur prédication n'est pas excellente, au moins ils affirment la foi de l'Église. C'est ainsi que le credo. Parfois, il y a des conjonctures comme ça, des raisons. Dernière chose sur la croyance, croire, c'est se mettre en mouvement. Je vous parlais du temps, et bien aussi le mouvement. Normalement, croire, c'est sortir de la passivité, la résignation. Qu'elle soit fondée ou non, une croyance, elle induit une conduite. C'est ce que je vous disais, la foi, la morale qui vient après, mais elle vient, elle doit venir. Croire en Dieu, qui plus est lorsque j'en prends, ben, croire à l'existence de Dieu, c'est une chose, mais à partir du moment où ma croyance prend cet assentiment de certitude, croire en Dieu, ça m'engage, que je le veuille ou non. Ça m'engage parfois à me rendre compte que je ne suis pas justement à la hauteur de cela, mais peu importe. Rajoutez, mieux vaut mettre à la tête d'une armée un général qui y croit. Vous voyez la notion de croyant. Ben oui, mais... On pourrait dire ça d'un État, enfin, en fait. Bon, on est suffisamment loin des prochaines échéances électorales. Et rajoutez ça, l'homme de cœur, l'homme qui croit, va peut-être dans le mur, mais au moins il y va. Donc voilà, mais c'est avec tout l'humour qu'il y a, c'est important. La notion de croyance, c'est pas si méprisable que ça. Il faudrait déjà nous en avoir une assurance. On a parfois, ne pas avoir honte de dire, mais voilà, cette croyance, mais oui, c'est celle qui me met en mouvement, c'est celle qui me donne envie d'aller ouvrir l'église pour que vous puissiez venir la voir, c'est celle qui me donne un sens, c'est cette conviction que la petite lumière là, c'est pas simplement pour faire joli, mais qu'il y a une présence, c'est... Voilà, elle nous met en mouvement, notre foi. Peut-être pas obligatoirement aussi facile, mais... En fait... Et là, c'est très très important, le monde du sens n'est pas du côté de la science. La science, elle explique, mais elle ne donne pas du sens. Le monde du sens, il est du côté de la croyance. Et donc, pour nous, évangéliser, je reviens quand même à mon thème de départ, c'est ne pas avoir ce complexe d'infériorité par rapport à un monde hyper scientifique contemporain. Croire, c'est un moteur. Peut-être que c'est pas démontrable, et ça c'est ce qui pose un problème, mais c'est un moteur. Évidemment, tout de suite, derrière, j'enchaîne avec cette notion de sacré. Qui est alors là? Alors, pendant un temps, même chose, mais ça, c'est un monde qui cherche à... C'est connaturel à l'homme, mais vraiment. On cherche à exclure le sacré au sens... Le sacré, c'est évidemment ce qui s'oppose au profane. Donc le sacré, c'est ce qui est mis à part, ce qui est réservé. Je ne vais pas aller chercher trop loin. Regardez le besoin, dès qu'il y a, ce sont des drames, c'est terrible, mais dès qu'il y a un drame particulièrement d'assassinat, de viol ou quoi que ce soit, le besoin de manifester publiquement à plusieurs, même des gens qui ne vont absolument pas connaître la personne, l'indignation, la peine, tout ce qui est aujourd'hui, c'est marche blanche. Alors, ça vaudra pour les deux, ce sont des liturgies, hein. Je suis désolé. La minute de silence, c'est une liturgie. Même le plus profane ne peut pas s'empêcher d'avoir un profond, d'inventer du sacré. Et je passe là-dessus sur la manière dont les athéismes contemporains, les idéologies athées du XXe siècle n'ont pu s'empêcher d'inventer un autre univers sacré. C'est-à-dire les cultes de personnalité, la manière dont on doit se comporter sur le Kremlin. Le sacré est inhérent à l'homme. Et même si, alors exactement comme la notion de croyance, ben, on a cherché à l'exclure. On n'ose plus dire dans le monde contemporain que quelque chose est sacré. Et ça, c'est très, très intéressant. Quand il y a des tombes profanées, des choses qui arrivent assez régulièrement, vous ne verrez pas dans les médias le mot sacré. C'est pourtant le lieu de sépulture est quelque chose de profondément enraciné. C'est le même le point de départ d'ailleurs de l'expression du sacré dans la nature humaine. Je veux dire que à partir du moment où il y a sépulture des défunts, il y a conscience d'une forme de sacré. J'enterrerais pas les morts si je ne voyais pas quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est toujours dégagé. Il y a eu une année, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu une crise autour de la Marseillaise qui avait été mal chantée, le drapeau français, etc., qui se pendant des matchs de football, etc. Bref, il y a eu une atteinte à quelque chose. Personne n'a osé dire. En fait, si, c'est quelque chose de sacré. On va prendre des périphrases, des valeurs. On va dire, mais non, mais il y a quelque chose qui, même dans le laïc, j'allais dire, est sacré. Alors, il y a une origine. Il y a une origine vraiment, vraiment assez claire, je veux dire, de ce malaise. C'est toujours pareil, on revient à notre bigoterie de tout à l'heure. Le sacré, c'est de la bondieuserie. Mais et même du côté du, j'allais dire parfois, on peut trouver ça même chez les personnes qui sont chrétiennes. Le sacré, de temps en temps, pour certains, alors moi j'ai pu l'avoir entendu, mais parfois même la notion de sacré, il y a un malaise en disant faut faire attention parce que c'est à la limite d'un truc un peu païen. C'est une histoire, je sais, c'est arrivé à un des confrères diacres, qui était diacre à ce moment-là, et ils se retrouvent à une réunion, et ils apprenaient en tant que diacre comment on va dire la messe, donc ils prenaient les différentes prières eucharistiques. Souvent la première, pas tellement qu'elle est plus longue que toute cette citation, mais on parle de la première, et la première a tout un passage qui soit porté par ton ange céleste, avec le prêtre qui fait un geste, etc. Et l'un des diacres qui était là s'énerve en disant: mais ça, c'est du reste de paganisme dans notre foi. Même parfois, certains de nos gestes, c'est intéressant. La notion de sacré ne nous met pas obligatoirement à l'aise. Même des bons chrétiens voient, voilà. Pourtant, le sacré précède la foi. Ça, c'est extrêmement important. Le sacré, la notion de sacré précède même ce que l'on croit. On est fait d'univers, on est fait d'espace. Le sacré, c'est d'abord un espace avant d'être une personne ou quoi que ce soit. Par exemple, une expérience qui nous arrive lorsque j'étais séminariste à Lorient, j'avais bougé plusieurs fois d'appartement, mais bref, je me suis retrouvé dans un appartement au premier étage qui avant était un secrétariat. J'étais dans mon appartement, pour me prendre les siennes des séances, j'étais juste dans mon appartement, et à ce moment-là, l'organiste qui était là, qui avait tellement la bible, rentre chez moi comme... Je suis désolé, c'est extrêmement éprouvant, comme, et il y a quelque chose de profondément... C'est une expérience du sacré. J'ai un espace, c'est le mien. Il n'y a aucune croyance derrière ou quoi que ce soit, mais là, à l'entrée de la porte, bah, tu frappes, quoi. Et donc, il y a, c'est une expérience humaine, et ça, c'est quelque chose qui est important. On ne veut pas en parler, et on est pétri, là aussi, de cela. L'espace sacré, ce que l'on considère comme sacré dans notre vie en tant que tel, donc c'est-à-dire... réservé, mis à part, si vous voulez, une définition qui reste profane. Mais évidemment, à partir de un lieu qui, parce qu'il est mis à part, ne peut pas être fréquenté, c'est ça, si vous voulez, parce que ne peut pas être fréquenté de la même manière que le commun. Et ça vaut pour un stade de foot. Excusez-moi, il y a une manière de se comporter. On adopte une liturgie, une manière de faire, parce que ce n'est pas l'endroit commun, même si c'est un lieu public ou tout ce que vous voulez. Voilà, et ça précède toute forme de croix. Et c'est vraiment, c'est ce que je vous dis, à la base de tout l'édifice religieux, tout commence par cela. Le sacré animiste, si vous voulez, le début de le sacré où tout l'inexplicable va être rendu justement sacré, qu'on va trouver dans la préhistoire, hein, dans la préhistoire très très tôt, il se manifeste, que je vous disais tout à l'heure, par les premières sépultures, parce que le sacré n'est pas seulement de l'ordre des esprits qui peuvent habiter la nature dans une pensée animiste, mais le sacré va aussi être dans la personne, on va aussi déterminer ça dans la personne. Dans la préhistoire, c'est flagrant. Ce sacré va s'affiner. Et à partir de ce qu'on appelle la proto-histoire, à partir du moment où on a vraiment des sources archéologiques, on va avoir quelque chose qui... La notion, le sacré, je vais dire polythéiste et animiste, va se réduire dans l'histoire à la compréhension d'un sacré, de divinité. On va voir apparaître un certain nombre, de déités, de divinités. C'est tout le polythéisme ancien. Il y a toute une manière dont l'humanité est affinée dans l'histoire. Et là, c'est encore le sacré. Et là, le sacré va rejoindre des espaces bien définis. Et tous les temples, avec les endroits où on a le droit ou non d'entrer, d'ailleurs, ce qui est réservé, parce que dans le sacré, il y a aussi les personnes. Donc on a un espace qui va être réservé pour le culte, pour la divinité, mais même dans cet espace, il y a un espace qui est encore réservé. Vous connaissez évidemment le monothéisme, la naissance du monothéisme dans les religions de salut, avec du Dieu unique, on va avoir encore plus de l'ordre du sacré. Israël se pense soi-même, j'en reparlerai tout à l'heure, comme sacré, mis à part. Et dans Israël, la tribu de Lévi est mise à part pour pouvoir assurer le culte. Et là-dedans, on va encore mettre à part le sacré du sacré du sacré du sacré. On affine. Mais c'est profondément dans la nature humaine. Et qu'on le veuille ou non, le sacré fascine, et le sacré ancien fascine l'homme. Non, on ne sait toujours pas comment Obélix est venu mettre à Karnak ses menhirs, mais ça continue, et ça continue d'écrire, ça continue de fasciner. Et c'est la manifestation, je ne sais pas où sont les conjonctures et toutes les réflexions sur qu'est-ce que c'est que à quoi ça servait, Karnak et tout, alors on avait toutes les orientations et machin, peu importe, c'est la manifestation d'un sacré qui continue de fasciner. Et là aussi, là, on a une très belle porte, toujours, je cherche à vous montrer ces portes d'entrée. Peut-être que la foi catholique n'a pas le vent en poupe, peu importe. Les gens auront toujours ces besoins de croyance et cherchent quelque chose. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas régulièrement à la messe qu'ils ne vont pas avoir ce besoin tout à coup de s'adresser. S'ils voient un endroit où il y a un présentoir, une Vierge Marie, des bougies, ils diront... Vous voyez, c'est inhérent. L'apprentissage du sacré, elle se fait aussi. Elle est là, parce que c'est quelque chose de présent. On ne rentre pas n'importe comment. Pas apprendre ça aux personnes. Tu vois, là, on n'entre pas n'importe comment. Alors, toute la question de comment on se comporte dans une église, etc. On n'est pas chez soi, quoi. Bref. Mais comme il y a au moins ce fond-là dans la personne humaine, c'est vraiment une notion universelle. C'est vraiment Je pense que c'est vraiment pour nous important de le retenir. hein, ce besoin de sacrer, de sacraliser. Vous voyez bien à quel point les institutions, à partir d'une société, je vais voir maintenant, qui se délite, à quel point les institutions cherchent, les institutions civiles cherchent des moyens de recréer ce lien, parce que le sacré crée aussi un lien, parce que normalement il est consensuel, tout le monde peut le comprendre. En fait, à force, l'État ne sait plus comment inventer cela. Bon, ben là, nous avons un atout. Ben oui, mais voilà, c'est quelque chose qui me paraissait très important de... Voilà comment finissait sur le sacré, et je trouvais ça extraordinaire. Deux choses menacent nos communautés, le sacré et le profane. Trop de sacré, comme l'islam radical, c'est immobilisme et pétrification. On ne peut plus rien faire. Et violence, par conséquent. Pas assez de sacré, comme nous, c'est démembrement et décomposition.
C'est de qui, ça ?
Debré, qui terminait comme ça sa conférence.
Debré ?
Oui, Régis ouais. Debré qui disait ça. Et c'est tellement juste. C'est-à-dire qu'on est pétri de sacré, mais il y a besoin de séparer les choses. Et que la foi chrétienne a toujours rendu à César ce qui était à César et à Dieu ce qui était à Dieu. Deux domaines, clairement. Mais à force de vouloir étouffer le sacré, la société ne tient plus. La société aujourd'hui n'a plus le langage pour pouvoir fédérer, parce que le sacré fédère. Et inversement, vous le voyez bien, à partir du moment où il y en a trop, ça devient compliqué. Voilà mes deux présupposés qui voilà, dans l'évangélisation contemporaine, eh bien, cet incroyable besoin de croire, il est là. Je suis volontairement pas rentré dans des questions autour de l'évangile, autour de... Non, prenons juste, déjà rien que ces deux notions, il y en a d'autres, hein, mais rien que ces deux notions nous permettent de saisir la chance qu'il y a ça dans le fond de l'homme. Et c'est juste, voilà, un peu de bon sens. Maintenant, il y a un autre enjeu qui se met là-dessus. C'est toute la question pour nous de réussir à travers ce qui existe dans un fond humain, comment là maintenant transmettre, parce que c'est bien le but. Quelles vont être là, l'évangélisation, c'est une transmission. Et au sens fort, une question de vie ou de mort. Transmettre, c'est faire sortir de l'oubli. Une sépulture, à partir du moment où on a oublié, où on ne peut plus nommer le mort qui y est, elle est désacralisée. On lui retire son côté sacré, en tant que tel. L'oubli en tant que tel, hein, est vraiment, moi, c'est là, la poésie, c'est très très bien le faire, mais... L'oubli est vraiment quelque chose qui conduit, voilà, qui est de l'ordre de la mort. Donc, transmettre, c'est vraiment cela. Alors, attention, transmettre, c'est pas le synonyme de communiquer. C'est pas communiquer. C'est bien souvent ça, on confond les deux choses. La transmission, c'est pas la communication, il y a les réseaux sociaux, si vous voulez. Qu'est-ce qui est transmis ? C'est pas la même chose. La transmission signifie... La communication fait partie de la transmission, mais la transmission est bien plus large, puisqu'il s'agit, voilà, il s'agit de quelque chose qui est de l'ordre, oui, du sens. Et d'abord, c'est vrai, de lutter contre la mort. Je vais prendre l'exemple, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant, du livre du Deutéronome, surtout de l'expérience d'Israël. Donc je le dis, hein, il le dit beaucoup mieux. Lisez Barthélemy, Dieu et son image, c'est absolument formidable, et on comprend bien. Dans le Deutéronome, vous connaissez le passage, le chemin Israël. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Voilà ce qui est important. Tu les rediras à tes fils Tu les répéteras sans cesse à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. Tu les rediras à ton fils. Tu les transmettras. Transmettre pour Israël est une question de vie ou de mort. Dès le départ, et ça c'est dans le don de la loi, lorsque Dieu donne la loi, Moïse rappelle cela, le Deutéronome, donc là, c'est la fin du Pentateuque, c'est le testament de Moïse. Et Moïse, dans ce testament, justement, qu'est-ce que c'est qu'un testament, sinon ce que je veux transmettre à ceux qui vont être après moi. Donc Moïse fait ce testament, qu'est-ce qu'il y a à transmettre? Eh bien, ce que je transmets, vous allez continuer de le faire. C'est une question de vie ou de mort, parce que si vous oubliez, vous serez comme les autres peuples, donc vous ne serez plus, je reprends mon expression, sacré, mis à part pour Dieu. Et l'expérience d'Israël, elle est là, de comprendre, je vous le dis parce qu'après c'est pour nous, de comprendre d'abord qu'est-ce que signifie cette mise à part. Dans, lorsque Dieu s'adresse à Pharaon à travers Moïse, let my people go, ce qui est dit à ce moment-là, laisse mon peuple aller pour qu'il me rende un culte, pour qu'il me soit réservé. Je l'ai mis de côté pour moi. Et donc, cette vocation, j'allais dire, d'Israël, enfin Moïse l'a dit, si vous ne le transmettez pas, c'est une question de vie et de mort, vous ne serez plus, vous ne répondrez plus à ce que vous êtes. Et Israël va en faire l'expérience douloureuse en exil. Dans l'épreuve de l'exil, après avoir vécu l'exode, avoir pu être sur la terre promise, mais après, bon, vous relisez là, vous relisez votre Bible, vous avez, de manière bien plus détaillée, mais un exégète qui enseigne là, au Bernardin à Paris, le père Jean-Philippe Fabre, ses conférences, ses écrits expliquent ça aussi admirablement. Simplement, je n'ai pas tout et je ne sais pas retrouver les endroits où il y avait vraiment ces choses-là. Mais dans l'épreuve de l'exil, que doit faire Israël pour continuer? Il nous raconte, hein, finalement, ils sont déportés, ils se retrouvent à Babylone. Là, à Babylone, a priori, le Dieu qui est vainqueur, c'est le Dieu des Babyloniens, ce n'est pas le nôtre. Et pourtant, Israël, à ce moment-là, va, et c'est là que ça m'intéresse, aller chercher son patrimoine, son héritage. Qu'est-ce que j'ai reçu? Va l'organiser même, le trier, pour le transmettre. C'est afin de ne pas perdre la vie, c'est de ne pas perdre son identité. Israël a cette nécessité, dans l'épreuve de l'exil, de rassembler, de tout reprendre, de l'organiser, de méditer là-dessus, de voir son héritage, voir ce que le peuple a reçu, pour pouvoir le transmettre, parce que 70 ans, on est sûr d'un renouvellement de génération, et donc, à l'époque, on est certain que ceux qui n'auront pas connu la première terre peuvent abandonner, et donc se dissoudre dans les autres peuples. Et donc, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant, le patrimoine, et je vous en reparlerai tout à l'heure, ce n'est pas une question d'accumulation d'un certain nombre de choses. Le patrimoine, c'est ce que l'on reçoit et ce que l'on va, et par conséquent que l'on va transmettre. Le patrimoine n'est pas quelque chose de statique, n'est pas un cumul, une somme. Le patrimoine ne peut pas être, je prenais l'exemple, c'est le relais, le bâton, le témoin que l'on passe dans une course de relais. Ce n'est pas quelque chose de figé, donc. Et l'expérience d'Israël, c'est exactement ça. On va reprendre toute l'histoire, elle arrive dans ce creuset qu'est l'exil, et il va falloir la transmettre. Et c'est pour ça que j'ajoute cette dernière partie, parce que c'est l'expérience d'Israël, finalement, assez vite. On l'a dans le serviteur souffrant d'Isaïe, mais on va le voir apparaître peu à peu. C'est si je vous ai choisi, si vous avez besoin de ça, parce que ça va servir pour toutes les nations. Lumière des nations, c'est d'abord Israël qui doit l'être. Donc c'est aussi ce qui nourrit. C'est ce que je voulais vous montrer là, c'est Moïse transmet son testament, Israël vit l'expérience de l'exil, a ce souci de tout rassembler, mais qu'il y a un but, c'est d'être lumière des nations, donc c'est hors de soi-même, même si c'est un tout petit reste. Excusez-moi, c'est l'expérience que nous faisons profondément aujourd'hui dans nos sociétés post-chrétiennes. Donc l'enjeu de l'évangélisation d'aujourd'hui, hein, c'est de ne pas désespérer, parce qu'Israël s'en sort aussi, donc Dieu accompagne, en vrai, Dieu accompagne son peuple et le petit reste en question, mais qu'il n'y a pas, et Israël va le comprendre comme nous avons à le comprendre. Alors attention, je n'ai pas dit qu'on était tous des lumières, mais que nous avons, voilà, cette vocation, transmettre d'être lumière des nations. Et que c'est une question de vie ou de mort. Si nous ne transmettons pas, et nous le savons combien, et c'est compliqué ensuite, hein, à quel point la foi est difficile, est extrêmement difficile à transmettre, mais si nous ne transmettons pas cela, la foi mourra. Question de Jésus, hein. C'est pas moi qui l'ai posée, c'est lui. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi? Si on garde la richesse de notre foi exprimée, et là je l'adapte à vous, évidemment, exprimée dans le patrimoine aussi, dans le patrimoine sacré, si on la garde pour nous, si c'est pas avec ce but de l'offrir aux nations, ce qu'Israël comprend, alors on se sclérose, on fait. Il y a vraiment le but de pouvoir l'ouvrir. Et ouvrir quoi à travers elle? Le sens, Israël est la lumière des nations, vous avez ce passage, vous avez un des psaumes mais qui est confus là mais je crois que c'est toujours en Isaïe, un jour viendra où 10 hommes viendront voir un hébreu pour lui dire « Enseignez-nous votre loi ». C'est là qu'est la... J'aurais dû vous retrouver le passage, il me vient en tête que maintenant, parce que c'est toujours plein d'espérance pour nous aussi. Un jour viendra où, comme c'est là qu'est le sens, c'est ce que dit exactement ce passage, comme c'est là qu'est le sens, les personnes assoiffées de sens de toutes les nations voudront se tourner vers. Et donc, l'enjeu de la transmission, question de vie ou de mort, c'est ce que je dis, c'est la question de donner, de permettre aux contemporains, sortis de leurs présupposés contre la croyance, la foi, j'ai pas rajouté ce que je vous ai dit au début, et la morale de l'Église, parce que c'est toujours ça qui revient, puis en plus dans la morale de l'Église, en règle générale, la morale sexuelle, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu plus large, quoi, quand même, l'enseignement. Donc, je veux dire, notre société est obnubilée par une chose quand... La foi chrétienne offre bien plus large. Elle offre le sens. Elle offre ce sens de l'existence. Alors c'est sûr, c'est avec une crise profonde. Alors pour le coup, dans son article, Michel Bertrand décrit très très bien, je ne veux pas vous refaire, parce que sinon on désespère, je commençais déjà là-dessus rapidement, la question de l'individualisme, le problème des institutions, lirez l'article, on sait ces choses-là, hein, oui, la chute des institutions, le refus de toute autorité, l'importance de l'individualisme et l'importance de l'instantanéité. Voilà, vous avez un peu les quatre causes de la crise de la transmission aujourd'hui. Il faut que tout soit instantané, on ne reconnaît plus l'autorité de celui qui parle, la notion d'autorité n'est plus acceptée, l'individualisme, c'est ma vérité à moi qui m'importe le premier. Il y a une crise, oui, et je crois profonde, Elle est réelle de la transmission. Cela étant dit, je n'ai pas retrouvé le texte et il faut que j'appelle un confrère qui l'avait. Il avait un texte, cette génération, la jeune génération est vraiment pire.